L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter à pencher vos têtes. On va juste remettre cette portion au Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On te remercie, Seigneur. On te remercie pour ta bonté. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu n'oublies pas personne. Mais chaque personne dans cette place est précieuse. Seigneur, je sais que tu as une parole pour chaque personne. Merci de nous donner les oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu, ce que ton Esprit nous dit aujourd'hui. Merci de nous ouvrir les yeux également pour voir les choses qu'on a à voir. On te remercie parce que ta présence est tangible dans cette place. Merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que, Seigneur, tu ne nous laisses pas comme nous sommes. Tu nous reçois comme nous sommes et tu nous transformes pour qu'on puisse aller de gloire en gloire. Et nous te recevons dans cette place. Nous célébrons ta présence. Nous t'accueillons, Seigneur Dieu. Nous te disons comment nous t'aimons et comment on est dans l'expectative de recevoir plus de toi. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on va commencer peut-être une série, on verra comment Dieu va diriger. Mais la beauté de la foi, la beauté de la foi. On aime tous ça, les belles choses, n'est-ce pas? Quand on s'achète un véhicule, on aime ça, une belle auto. C'est rare qu'on choisisse des choses qui sont extra laides. Hein? Bien sûr. Bon, mais peut-être, il n'y a pas grand amen, ça fait que peut-être vous êtes... Il faut que je parle à un autre groupe, là. Mais... Typiquement, on est tous attirés par les choses qui sont belles. Et ce que Dieu nous donne, c'est toujours quelque chose de beau. La vie en Jésus, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, quand on découvre qui est notre Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous sommes heureux dans la vie chrétienne. Et ce n'est pas un joug écrasant. Plus qu'on apprend à connaître notre Dieu, le plus que c'est rafraîchissant. Et le plus qu'on commence à manger et boire. Si on a soif de Dieu, le plus qu'on boit, comme j'expliquais mercredi soir, le plus qu'on va avoir soif. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, si on venait à lui, on n'aurait plus jamais soif. Mais ça voulait dire qu'on n'aurait plus jamais soif pour autre chose que lui. Mais une fois qu'on a découvert le Seigneur Jésus, on a soif pour sa présence. Et comme on boit de lui, on boit de son onction, de sa présence, cette soif-là augmente de jour en jour. Et on a de plus en plus faim spirituellement. Donc aujourd'hui, si vous dites, ben moi j'ai du mal peut-être à vraiment comme avoir du temps avec Dieu, on dirait c'est quelque chose de rigoureux, c'est quelque chose de lourd. Mais le plus que vous allez passer du temps avec Dieu, le plus que vous allez aimer ça. Et vous allez vouloir dévorer la parole de Dieu et vraiment passer du bon temps avec lui. Donc ce matin, ce qu'on va voir, la beauté de la foi. Et j'aimerais ça, premièrement, établir le fait qu'il y a deux types de personnes dans le monde. Deux types de personnes. J'aimerais vous inviter à venir avec moi dans le psaume 38 et le verset 7. Deux types de personnes. Et on va voir qu'on peut décider quelle sorte de personne qu'on va devenir. Quelle sorte de personne qu'on va devenir. On n'est pas obligé de rester pareil. Nous avons le grand privilège de choisir aujourd'hui ce que nous voulons devenir. Gloire à Dieu. Amen. Dans le psaume 38, verset 7, dans la Bible du Sommeur, il est écrit, « Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. » Mon verset d'ouverture, j'aimais comment c'était écrit dans la Bible du Sommeur. Triste, pouvez-vous voir quelqu'un de triste? Accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Avez-vous la capacité d'imaginer quelqu'un comme ça aujourd'hui? Peut-être c'est vous dans le miroir, triste, accablé, abattu, qui se traîne toujours. Ça, c'est une sorte de personne, mais heureusement, on n'est pas obligé d'être cette personne-là. On peut être transformé. Dans le psaume 16 maintenant, on va aller voir l'autre type de personne. Dans le psaume 16 et le verset 11. Le psaume 16 et le verset 11. La présence de Dieu est ici ce matin, frères et sœurs. Dieu veut faire quelque chose dans vos vies. Puis quand je sens quelque chose sur mon corps, souvent ça représente quelque chose, mais je peux vous dire, on va marcher ensemble dans un sentier de la présence de Dieu aujourd'hui. Je ressens la présence de Dieu sur mes jambes, ça monte, ça descend. Puis je crois qu'il y a plusieurs personnes ici, vous allez prendre un pas vers l'avant aujourd'hui. Mais pas un pas dans la religion, pas un pas dans des principes, un pas dans la présence de Dieu pour votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Dans le psaume 16, verset 11, il est écrit « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Je vais le relire. En parlant de Dieu, « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence. » Je vais juste m'arrêter là, on va se stationner là. « Plénitude de joie en ta présence. » Savez-vous, dans la présence de Dieu, il y a une plénitude de joie. Vous voulez vivre la présence de Dieu? Bien, vous allez vivre la joie. Vous voulez vivre la joie? Vous allez vivre la présence de Dieu. La joie sans la présence de Dieu n'existe pas. Les gens vont chercher à droite et à gauche, essayant de combler un vide en dedans. On va essayer d'avoir du plaisir dans ce monde. Mais le plaisir véritable, éternel, se retrouve seulement en Dieu, seulement dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut être très, très pauvre, démuni. J'étais en Haïti en 91, et puis j'étais dans ce pays-là, je voyais les gens qui étaient pauvres, qui vivaient dans des habitations assez élémentaires, et pourtant j'ai vu un peuple super joyeux. Je voyais des dames à 4 heures le matin qui commençaient dans l'intercession le matin, qui priaient à 4 heures. Moi, je me faisais réveiller par les cris et les pleurs des intercesseurs à 4 heures le matin dans l'église. Je dormais à côté dans une petite maison. En fait, c'est une grosse maison pour là-bas, mais dans une maison. Et puis, la maison était connectée à l'église. J'entendais les prières. Et je voyais ces gens-là, pauvres et selon nos standards, démunis, mais remplis de joie. J'ai jamais vu un peuple aussi joyeux que le peuple haïtien. Gloire à Dieu. Mais ces gens-là avaient la présence de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence, la présence de Dieu. Donc, tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Voulez-vous vivre le bonheur éternel auprès de Dieu? Bien, moi, je choisis d'être cette personne-là qui se tient dans la présence de Dieu. Je veux vivre avec lui sur le chemin de la vie. Amen. Au lieu de marcher sur le chemin de la mort, et sur le chemin de la mort, on recherche toujours à combler ce vide-là. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, mon vide a été comblé. Peut-être votre vide a été comblé aujourd'hui, mais sinon, aujourd'hui, je vais vous partager comment ce vide-là peut être comblé à tout jamais. Et remarquez, je n'ai pas dit que votre tête va être comblée. Ce n'est pas une question de tête, mais c'est une question de cœur aujourd'hui. C'est ça que Dieu veut remplir. En passant, Dieu ne nous a pas envoyé une religion pour nous sauver, il nous a envoyé une personne et son nom est Jésus. Il veut qu'on puisse avoir une relation vivante avec lui. Et quand on a une relation vivante avec Jésus, c'est là où notre vie est transformée à tout jamais. Amen. Bon, qu'est-ce qui fait la distinction? On a déjà vu, bien, il y en a un qui se tient dans la présence de Dieu. Il y en a un qui est sur le chemin de la vie, qui marche avec Dieu. Mais ce qu'on va voir ensemble en parlant de la foi, il y en a un qui a l'amour véritable pour Dieu et une foi en lui. Venez avec moi dans 1 Jean, chapitre 5, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 5. Ici, on va voir la ligne de démarcation. Même quelqu'un qui pourrait dire, « Bien, moi, je crois en Dieu. » Il y a plusieurs personnes qui vont dire qu'ils croient en Dieu. On peut aller sur les rues, ici, dans la ville, et puis demander aux gens, « Croyez-vous en Dieu? » Plusieurs, la majorité, en fait, vont dire, « Oui, je crois en Dieu. Par contre, je ne crois pas à l'Église, ou je ne crois pas en ci, je ne crois pas en ça. » Mais la majorité des gens croient au plus fond de leur être, qu'un Dieu existe. C'est la grande majorité des gens. Mais là, on peut leur poser la question ici, mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'une personne va expérimenter la joie dans sa vie, et non seulement dans cette vie-ci, mais pour l'éternité? Bien, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3 et 4, nous lisons, ça dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Mais remarquez, ça dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements qui ne sont pas pénibles. » Ici, on ne parle pas des commandements pour être sauvé. On parle ici des commandements pour vivre la joie de Dieu. Parce que le salut, le ciel, c'est un don gratuit. On ne peut pas assez faire de commandements pour être reçu ou accepté par Dieu. Nous sommes tous pécheurs avant de donner notre vie au Seigneur Jésus. Donc, ici, on ne dit pas, bien, on doit faire tel ou tel commandement, on doit respecter les commandements de Dieu pour que Dieu nous reçoive. Non, Dieu nous reçoit comme nous sommes, plein de péchés, plein de problèmes, plein de bobos, Tout ça, Dieu nous reçoit comme nous sommes. On a juste à se tourner vers lui. Et puis là, Dieu nous aime tellement qu'il nous transforme et nous change. Une fois qu'on a été sauvé, adopté dans sa famille, ce qui se produit après, Dieu nous montre le chemin à suivre, le chemin de la vie. En fait, sur le chemin de la vie, Dieu nous montre ses commandements. Et puis ces commandements-là nous indiquent toujours le bon chemin. Ce n'est pas légaliste d'avoir des commandements. Si vous me posez la question, comment puis-je me rendre à Montréal, et puis je vous donne le commandement, prenez l'autoroute 10, et puis rendu au pont au pont Champlain, mais là, voilà, vous arrivez, je vous donne des indications, mais je vous dis, si vous voulez vraiment vous rendre là, je vous donne des commandements. Et des fois, le mot commandement fait peur, mais en fait, c'est ce que Dieu nous dit, pour qu'on puisse arriver au bon port, marcher sur le bon chemin. Donc, ici, ça dit l'amour de Dieu. Quand on aime vraiment Dieu, ça consiste à garder ses préceptes, ses commandements. Parce que, ensuite, ça dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, si on a donné notre vie au Seigneur Jésus, nous avons expérimenté ce que la Bible nous dit, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, donc on est cette génération de saints de l'Éternel, c'est parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc on parle ici de l'amour de Dieu, l'amour pour ses commandements et la foi. Donc, il y a vraiment une démarcation ici entre le religieux et celui qui est vraiment un passionné de Dieu, qui va marcher dans la foi. Et puis, c'est vraiment ça. Une autre chose qu'on veut voir, c'est dans Hébreux 10, verset 38. On peut voir, bon, il y a une différence entre deux types de personnes, mais après, comment puis-je vraiment marcher avec le Seigneur? Est-ce que Dieu a un plan spécifique pour ma vie? Et Dieu a un plan spécifique pour chaque personne, une manière de vivre. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, bien Dieu a déjà conçu un plan pour votre vie. Et c'est le plan de cette marche de la foi. Dans Hébreux 10, 38, il est écrit « Mon juste, celui qui a été justifié, qui a été déclaré pur, pardonné. » Bon, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Ce que je veux souligner ici, mon juste, êtes-vous un juste ce matin? Amen. Mon juste vivra par le principe de la foi. C'est la façon qu'on va vivre, ou même la loi de la foi, on pourrait décortiquer la foi à plein de niveaux, mais mon juste vivra par la foi. C'est ma façon de vivre. Vraiment, la foi, c'est ma façon de vivre. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire de quoi? Du chemin de la foi, s'il emprunte le chemin du doute, en autres mots, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu aime lorsque nous marchons sur le chemin de la foi. Dieu aime ça lorsqu'on marche avec lui, non dans le doute, mais toujours dans la foi, répondant toujours à la voix de l'Esprit Saint. Si l'Esprit de Dieu nous dirige, et on est obéissant, on marche sur le chemin de la foi. Et Dieu prend plaisir parce que notre Père céleste veut toujours notre bien. Comme moi, j'aime mes filles, bien, moi, pour que mes filles me fassent plaisir, c'est qu'ils puissent marcher sur le chemin de la bénédiction. Amen? Moi, je ne veux pas que mes filles soient désobéissantes et puis qu'ils soient rebelles et qu'ils passent à côté des choses que Dieu en réserve pour leur vie. Moi, j'aime ça quand mes enfants reçoivent vraiment la pleine bénédiction paternelle. Amen. Puis c'est la même chose, notre Dieu est tellement bon, pour lui faire plaisir, il faut marcher avec lui. Quand on se détourne puis on dit, « Ben Seigneur, ben, t'es là, je sais, toi tu me dis de faire ça, mais regarde-moi, je vais faire ma tête. » On attriste le cœur de Dieu. On attriste le cœur de Dieu. Puis moi, je veux faire plaisir au Père. Et vous? Bon, on vient de voir, mon juste vivra par la foi. Donc, enregistrez ça ce matin. Moi, je suis un juste, sauf que si je suis juste, ma façon de vivre, c'est par la foi. Ici, on est une église de foi. Une église de foi, on ne prêche pas le doute. Je ne vous enseigne pas comment vivre de défaite en défaite, d'horreur en horreur. On veut enseigner la parole de Dieu qui nous dit, on va de gloire en gloire, de foi en foi, la foi qui se multiplie dans nos vies. Amen. De victoire en victoire. Gloire à Dieu. Ici, on voit dans Hébreux 11, verset 6, ça dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable » en parlant de Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Et pas juste dire, oui, Dieu existe, mais croire vraiment ce qu'il a dit. Puis on va y arriver aujourd'hui, on est en train d'établir des choses. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres mots, que Dieu va récompenser notre foi. C'est ça. Si on s'approche de Dieu, on doit s'attendre que Dieu va récompenser notre foi. Amen. Donc, pas simplement croire, oui, Dieu existe et puis je ne fais rien avec. Non, si je crois que Dieu existe, là, je vais m'approcher de lui. Puis ça dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on a vu, si on se détourne du chemin de la foi, si on marche dans le doute, le cœur de Dieu va être attristé. Puis en plus, on retrouve juste un chapitre plus tard, c'est sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est vraiment être agréable pour le Seigneur. Amen. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous voulez devenir vraiment une personne de foi. Amen. Moi, je veux être une personne de foi pour être agréable à mon Dieu. Mais là, si on veut être une personne de foi, on doit se dire, bien, OK, bien, qu'est-ce qui peut faire en sorte que je ne serais pas une personne de foi? Bien, le doute fait de nous des personnes qui ne sont pas justement des personnes de foi. Bon, si on veut comprendre, OK, bien moi je ne veux pas être une personne de doute, je veux être une personne de foi, mais comment puis-je comprendre, comment est-ce qu'on peut définir une personne de foi? Ce matin, ce que je vais faire, je vais montrer des choses vraiment précises concernant une personne de foi, et puis là, vous pourrez vous examiner vous-même et voir, est-ce que je suis cette personne de foi-là? Et peut-être que vous allez être surpris, même certaines choses que je vais dire. Peut-être que vous vous attendez déjà à certaines choses. Ah, mais une personne de foi confesse la parole de Dieu. Et c'est vrai. Mais on va voir d'autres choses avant. On va voir d'autres choses. Mais avec moi dans le psaume 118 et le verset 6. Voici, si j'étais peintre, je pouvais vous faire une peinture. Voici la personne de foi. Je vais vous faire cette peinture-là aujourd'hui avec des paroles. Et vous pouvez avoir l'image dans vos têtes. Voici ce que la Bible nous dit est une personne de foi. Et certainement, si on aime Dieu, on veut être cette personne-là parce qu'on sait que pour lui être agréable, il faut devenir cette personne de foi. Amen. Dans le psaume 118, verset 6, il est écrit, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Remarquez bien ceci. « L'Éternel est pour moi. » Croyez-vous ça au fin fond de votre cœur? Que l'Éternel est pour vous, que vous êtes sur le bon côté, que Dieu est sur votre côté. Remarquez ça, là. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Mais si je ne suis pas convaincu que l'Éternel est pour moi, si je crois plutôt Dieu est contre moi, là j'ai une raison d'avoir peur, n'est-ce pas? Mais ça dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? Si je sais que Dieu est pour moi, si vous le savez que Dieu est pour vous, peu importe ce que les hommes peuvent essayer de vous faire, vous n'aurez jamais la crainte de l'homme parce que vous savez que Dieu vous back, en bon québécois. Amen. Vous savez, tous les démons de l'enfer peuvent venir vous attaquer. Toutes les armées des démons, tout ce que vous voulez, peuvent venir vous attaquer. Mais si vous savez que votre Dieu vous back et que Dieu est avec vous, vous n'avez pas à craindre les hommes. Ça, c'est merveilleux. Là, on peut marcher dans la vie vraiment dans une conviction que Dieu est avec nous. Moi, je l'aime, ce texte-là. Ça dit, on va le relire, je trouve ça trop bon. L'Éternel est pour moi, pas juste pour le voisin. Notre problème, c'est des fois, c'est parce qu'on ne s'approprie pas la parole de Dieu. On fait une lecture, mais l'Éternel est pour moi. Pour moi, je ne crains rien. Je ne crains pas le manque dans ma vie. Par exemple, peut-être certains d'entre vous avez peur de manquer. Peut-être vous avez peur d'être pauvre. Il y a des gens comme ça, des fois, ils ont peur. Il y a des multimillionnaires qui ont peur d'être pauvres, savez-vous ça? Ils sont riches à craquer, et puis ils pensent comme ça, ils disent, ben j'ai peur de peut-être perdre mon argent. Donc, même s'ils sont très riches, ils sont pauvres spirituellement. Puis il y en a d'autres qui sont pauvres, puis ils ont peur d'être encore plus pauvres, ils ont peur de mourir. On peut être dans la crainte, peu importe notre situation dans la vie, c'est une question de cœur. Et puis, on peut avoir la crainte peut-être de vivre de l'opposition, des attaques, peut-être la crainte de la maladie. Puis aujourd'hui, si vous avez des craintes dans vos vies, je veux vraiment vous encourager. Faites le ménage de ces craintes-là. Parce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job 3, 25. Ce que vous avez peur, vous arrivera. C'est ça que la Bible nous dit. Ça peut vous faire peur, hein? Mais j'ai rencontré plusieurs personnes, il y avait peur de ceci. La Bible me dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Parce que la crainte, c'est de la foi déguisée. La crainte, c'est la perversion de la foi. La crainte, c'est la foi en opposition. En fait, au lieu de placer notre confiance en Dieu, ce qui est la foi, la crainte, c'est de placer ma confiance dans ce que Satan peut faire dans ma vie. Même si on n'identifie pas Satan, il y a des gens qui ne croient pas en Satan, mais qui sont liés par la crainte, ces choses-là arrivent. Puis ils disent, mais comment ça, ça arrive? J'avais peur de ça. Justement, parce que votre foi a été véhiculée ou avait un focus qui était vers le mal, vers le négatif. Mais si on est des gens de foi, on peut dire, comme le psalmiste ici, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Quand on étudie en profondeur le mot rien, ça veut dire rien. Puis il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, ça, pasteur, c'est pas normal, là, parce que on est des êtres humains quand même. On est des êtres humains. Bien, si vous êtes un être humain, c'est correct. Mais moi, j'ai été régénéré, j'ai été adopté dans la famille de Dieu et je suis un enfant de Dieu. Mon esprit appartient au royaume de Dieu. Je ne suis pas juste un être humain normal et si jamais vous trouvez que je suis normal, venez me le dire. Parce que il faut que je me repente. J'essaie de ne pas être normal parce que le monde normal ne vit pas rien de Dieu. Moi, je veux rien de normal. Je veux vivre ce que Dieu veut que je vive. Et Dieu, c'est un Dieu oui, qui ne vit pas dans le naturel. Mon Dieu, c'est un Dieu spirituel, surnaturel. C'est pour ça qu'on peut vivre sans la crainte, sans vivre sous la contamination de la crainte qui vient nous voler, nous égorger, nous détruire dans nos vies. Mais on peut entrer dans cette vie de foi sans la crainte, sans le doute. Donc, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Si vous dites souvent, ben moi j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Tu sais, quand on est petit, puis on dit des mauvaises paroles, des fois nos mères nous disent, ben viens ici, je vais te laver la bouche avec du savon. Je vous encourage, sortez votre savon. Ma femme peut me reprendre, ou des fois moi je peux la reprendre aussi, ensemble. Des fois, si admettons, il y a une parole de doute qui est prononcée dans notre maison, des fois je la regarde, puis je dis, if you say so, en anglais, mais en français c'est, si tu le dis. Puis elle peut me dire la même chose. Ah, ben si tu le dis. Là, on est comme ça. J'annule mes paroles. Je ne vivrai pas ça. Notre petite Flora May, l'autre jour, elle disait une chose. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle disait, je ne le répéterai pas, mais c'était quelque chose de négatif sur sa vie. Puis là, tout de suite, Mathilde et moi, tout de suite, on a sauté sur son cas. Elle dit, t'annules ces paroles-là. Quoi? T'annules ces paroles-là au nom de Jésus. Chez nous, là, on les chicane. on se maudira pas avec nos paroles. On va déclarer la vie de Dieu sur nos vies. Amen. OK. Mais là, la première chose, on veut voir, le juste vivra par la foi, et une personne de foi ne marche pas dans la crainte. Donc, il faut avoir la révélation. La première chose, une personne de foi. Vous pouvez dire, ben moi, je suis une personne de foi. Bibliquement, une personne de foi, c'est une personne qui fait entièrement confiance à Dieu. Vous croyez vraiment là, que Dieu est digne de votre confiance. Ça, c'est une personne de foi. On peut dire bien des choses. Ça peut être une personne, des fois, on peut s'imaginer, bien, c'est une personne qui confesse toujours les versets de la Bible. « Ah, oh, je suis victorieux au nom de Jésus. » Ça ne veut rien dire, ça. On peut déclarer bien des choses et ne pas rien croire. Savez-vous ça? Amen. As-tu prêt? Je viens pas à sa joie, là, tout d'un coup, là. C'est que mon Dieu ne me laissera jamais tomber. Ça, c'est une personne de foi. Mon Dieu est vraiment digne de confiance. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est toujours une question de parole. La parole va juste révéler, en fait, ce que j'ai dans mon cœur. C'est pas juste ça, là. C'est-à-dire que, restez avec moi. Donc, on définit une personne de foi. C'est la révélation que Dieu est vraiment digne de confiance. Ensuite, il faut y avoir cette révélation de notre petitesse et dépendance totale sur notre Dieu. Venez avec moi dans Jean 15, versets 4 et 5. Jean 15, versets 4 et 5. Jean, chapitre 15, versets 4 et 5. Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Écoutez bien ceci. « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ou une branche, si on préfère, ne saurait porter du fruit toute seule sans demeurer attaché au cep ou à la vigne. Il en est de même pour nous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Imaginez, vous prenez sur la vigne, vous prenez une branche, vous coupez la branche, et Jésus est en train de dire, si la branche est détachée, ok, cette branche-là va cesser de porter du fruit. Elle ne pourra pas produire du fruit. Vous ne pouvez porter aucun fruit. Verset 5, « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, là, c'est un verset que plusieurs chrétiens ne croient pas. Un passage que plusieurs chrétiens ne croient pas. Parce que si on est autosuffisant, et si on croit qu'on est capable d'accomplir des choses pour Dieu, sans Dieu, on passe à côté. Remarquez le texte. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le mot « rien », quand on étudie en profondeur, ça veut dire « rien ». On ne peut rien faire de productif pour le royaume de Dieu si Dieu n'est pas la source qui coule à travers notre branche. C'est-à-dire que ce que je veux faire pour porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu, c'est rester connecté avec lui. Mais comment est-ce que je reste connecté avec Dieu? Ici, on parle d'image, là, mais on ne parle pas c'est littéralement d'une branche. Là. On est en train de, Jésus est en train d'illustrer un fait ici. Si je reste connecté, c'est rester connecté à la sève divine, l'onction de Dieu dans nos vies, qui coule à travers nos vies. La seule façon que je peux vraiment produire beaucoup de fruits, c'est d'être connecté à Dieu constamment. Restez toujours connecté. Vous savez, une branche ne se déconnecte jamais. Avez-vous déjà vu ça, une branche qui a décidé, ben là, pendant 3 semaines, je vais aller me déconnecter. Je vais me reconnecter plus tard, là, mais là, de ce temps-ci, j'ai d'autres choses à faire. Vous savez, aimeriez-vous ça, avoir une vignoble? Ou aimeriez-vous mieux un raisin? Moi, je veux offrir au Seigneur une vignoble, hein, avec ma vie. Je produis beaucoup de fruits pour le Seigneur. Et le Seigneur également, il veut que vous puissiez rester connecté à lui et réaliser une personne de foi, une véritable personne de foi. C'est une personne qui réalise que sans cet attachement au Seigneur, je ne peux absolument rien faire. Je ne peux absolument rien faire de productif avec ma vie. Mais si vous ne croyez pas ça, vous allez essayer de produire tout seul. Avez-vous déjà vu ça, une branche qui était déconnectée de l'arbre? Et qui essayait très, très fort de produire des fruits. Non, hein? Parce qu'on ne voit pas des branches qui font grand-chose. On les met dans le feu, puis on les brûle. Et c'est ça que Jésus fait aussi. Mais ces branches-là, si on pouvait imaginer, avec des petits dessins animés, une petite branche là, qui force très, très fort, qui force très, très fort, qui veut produire des raisins, ça ne marche pas. Il n'y a pas de la sève qui vient de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est tant et aussi longtemps que je crois que je peux produire des fruits tout seul, je n'y arriverai pas. Donc, en d'autres mots, je veux réaliser que mon Dieu est tellement grand et moi, je suis tellement petit comparativement à mon Dieu. Ceci dit, je veux m'humilier devant le Seigneur et pas la façon que le monde nous dirait de s'humilier, pas la façon que la religion nous dirait de s'humilier. La religion nous dirait, on doit dire, ben Seigneur, moi, je suis tellement indigne. Mais Dieu ne dit pas ça de nous. Parce qu'on était indigne avant d'être purifié, mais depuis que j'ai demandé pardon au Seigneur, je suis maintenant digne. Le Seigneur m'a lavé. Vous comprenez, on l'a vu mercredi soir, j'ai juste répété rapidement un petit témoignage. Quand je venais juste d'arriver en Alberta à l'époque, je priais un mardi soir, et puis là, je disais au Seigneur, je suis tellement indigne, et Dieu me dit, cesse de prier, allume la télévision, et à la télévision, il y avait un prédicateur qui dit, vous avez dit, vous êtes indigne, mais Dieu vous dit, vous êtes digne, arrêtez de le dire. Donc, Dieu m'a corrigé par une émission de télévision chrétienne. Mais tout ça pour vous dire, quand on est connecté avec Dieu, quand on a été purifié, on n'a pas à se voir indigne, mais on va s'humilier devant le Seigneur et réaliser, sans toi, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, qui va vraiment produire des fruits. Donc, il va avoir l'humilité et l'abandon total. Une personne de foi, c'est ça. Une personne de foi, ce n'est pas quelqu'un qui connaît 100 000 versets par cœur. Des fois, vous êtes là et vous pensez, ah ben, faut que je devienne une personne de foi. Et oui, on veut apprendre la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dénigrer la mémorisation de versets. Mais une vraie personne de foi, c'est une personne qui se voit dépendante sur Dieu, totalement dépendante. Vous savez, dans notre vie, dans la vie de Mathilde et moi, si ce n'était pas de Dieu, on ne pourrait pas rien faire. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu est notre seule sécurité. Dieu est notre seule sécurité. Vous devez comprendre ça. Et même si vous ne le croyez pas, Dieu est votre seule sécurité. Certains d'entre vous, vous placez votre confiance dans votre employeur, par exemple. Mais qui dit que demain matin, votre employeur ne vous dira pas qu'ils vont fermer les portes et qu'ils font faillite? Peut-être. Votre sécurité, peut-être, vous croyez qu'elle est là, mais non, la sécurité dans ce monde n'existe pas. La seule sécurité qu'on a, c'est Dieu. Parce que quand on est entre les mains de Dieu, Dieu prend toujours soin de nous. Amen. Donc, l'humilité et l'abandon total. Dans 2 Corinthiens 12, verset 10, ici, il est écrit un texte que vous connaissez sûrement très bien. L'apôtre Paul dit, un texte qui est assez révolutionnaire parce que c'est tellement à contre-courant des pensées dans ce monde. Ça dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Combien d'hommes passent leur temps pour, admettons, sont là avec leur chum et ils disent, « Hey, mes muscles, là, sont bien plus petits que les tiens, hein? Regarde comment moi je suis vraiment le squelettique, là. Hey, check ça, là. » On n'en voit pas des hommes qui disent, « C'est qui le plus maigre parmi nous, là? Celui qui n'a pas de muscle? C'est moi, là, je suis le plus maigre. Ouais, toi, t'es vraiment squelettique. Cool. » Non, les hommes vont dans des gyms, n'est-ce pas? Bon, ça fait que, pourquoi? Ben parce qu'on veut être fort. Ça, c'est un problème des fois dans notre vie spirituelle. On se pense fort. Mais remarquez ce que l'apôtre Paul a dit. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Mon plaisir, c'est dans ma faiblesse. Dans les outrages. Quand les gens me persécutent, par exemple, les outrages, toutes les attaques, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je réalise qu'en moi-même, je suis incapable, mais que Dieu est ma source, puis c'est lui qui me rend fort. Quand je réalise que moi, là, je suis à bout de mes forces, là, c'est là où Dieu peut me prendre et là, se servir de moi. C'est à ce moment-là que je suis utilisable entre ses mains. Mais tant et aussi longtemps que j'essaie de me débrouiller tout seul. Vous savez, il y avait une illustration où il y avait un homme qui est en train de se noyer dans l'eau. Il est en train de se noyer, puis il y avait un homme debout qui savait nager, puis l'autre qui ne savait pas nager. Puis celui qui ne savait pas nager était frustré que celui qui savait nager n'allait pas à la rescousse de la personne qui était en train de se noyer. Mais là, finalement, quand la personne a arrêté de se débattre, elle était en train de couler, là, le sauveteur est allé et a sauvé la personne. Puis là, on a posé la question après, « Mais comment ça t'as attendu aussi longtemps? » Mais il explique, la personne devait être à bout de ses forces. Parce que sinon, en se débattant, il m'aurait coulé également. Et c'est comme ça avec Dieu. Des fois, Dieu attend qu'on est au bout de nous-mêmes, au bout de notre confiance en soi pour vraiment se tourner vers lui. Puis quand on se tourne vraiment vers lui, là, c'est là où Dieu intervient, il vient nous sauver. Et là, sa force vient sur nous. Au lieu de travailler humainement, là, il y a le travail divin qui s'installe. Amen. Amen. Là, on peut se poser la question, OK, bien là, on a vu trois choses ce matin. La révélation que Dieu est vraiment digne de confiance, de notre petitesse et ensuite de l'abandon total. Là, on peut se poser la question, mais pourquoi tous ne sont pas comme ça? Pourquoi tous les chrétiens ne marchent pas dans la foi comme on vient de voir? Pourquoi pas? Ça semble assez facile, n'est-ce pas? Trouvez-vous ça a l'air facile, totalement abandonné entre les mains de Dieu? Peut-être pas, hein? Peut-être que vous êtes là et vous dites, c'est pas si facile que ça. Mais pourquoi pas? Je vais vous dire pourquoi. Gloire à Dieu. Il y a deux types de cœurs dans nos églises. Deux types de cœurs. Venez avec moi dans Ézéchiel 36, verset 26. Pas juste dans nos églises, mais également dans le monde en général, il y a deux types de cœurs de personnes. Deux types de cœurs. Il y a des gens qui deviennent des personnes de foi, puis il y en a d'autres qui demeurent des personnes de doute et qui s'empirent, en fait. Il y en a qui vont de doute en doute en doute, à incrédulité, puis on se dit, mais pourtant, on a entendu le même message. Comment ça, une personne grandit dans la foi, puis une autre personne rétrograde? Pourquoi il y a ces deux type de personnes-là dans nos églises? Pourquoi il y a des gens qui avancent avec Dieu dans la foi, puis il y en a d'autres qui reculent? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Bien, on va voir ensemble. Dans Ézéchiel 36, verset 26, ça dit, c'est Dieu qui parlait, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quand on devient un enfant de Dieu, le cœur de Pierre est enlevé et on reçoit un cœur de chair. Amen. On devient un enfant de Dieu et notre cœur, c'est un cœur où le Seigneur est capable de transformer. Amen. Bon, gloire à Dieu. Mais pourtant, avez-vous déjà vu ce texte-là? Dans Hébreux 3, verset 15, vous pouvez maintenant venir avec moi. Ici, on voit un texte, c'est une invitation où Dieu, en fait, nous lance une invitation. Lorsqu'on entend un message, admettons, il y a un message qui est prêché, et là, Dieu communique un message ici. Remarquez bien, dans Hébreux 3, verset 15, nous lisons « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Donc, Dieu est là, puis il lance une invitation aux gens. Il vous lance une invitation, il me lance une invitation. Quand le Seigneur veut me parler, puis il veut que je change de direction, que je change une chose dans ma vie, Dieu me dit, il ne faut pas que j'endurcisse mon cœur, mais il faut que je laisse l'Esprit de Dieu changer mon cœur. Amen. Il y a des choses que je dois comprendre de la part de Dieu. Mais pourtant, là, c'est là où on veut venir dans Exode 9, verset 12. Là, on va voir un verset qui a troublé plusieurs personnes. Ce verset-là a troublé plusieurs personnes, puis on va le voir ensemble. Pourquoi ce verset-là peut troubler des gens? On va le voir. Exode 9 et le verset 12. Exode 9 et le verset 12. Remarquez bien, ça dit ici, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. » Ici, on ne prendra pas le temps là, de revoir toute l'histoire. Vous pouvez voir un film là-dessus, si vous voulez, même l'Exode. Hein? Mais ici, l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon. Dans un verset, on voit dans la Bible ici, Dieu nous dit « N'endurcissez pas vos cœurs ». Et ailleurs, on voit que Dieu a endurci lui-même le cœur de quelqu'un. On se dit « Mais comment ça on retrouve ces deux choses-là dans la parole de Dieu? » Bien, il y avait une sœur chrétienne que je connais qui se posait cette question-là, puis elle dit « Seigneur, elle dit, je ne comprends pas, tu es un Dieu d'amour, comment ça t'endurcis le cœur de quelqu'un? La personne avait juste besoin d'être sauvée. » Et Dieu lui a montré quelque chose, puis je vais vous répéter ce matin. Dieu lui a montré qui il était vraiment. C'est ça qu'on va comprendre ensemble maintenant. Vous savez, dans Zacharie 2:5, on découvre que notre Dieu est un feu glorieux. Dans Zacharie 2:5, ça dit « Je serai pour elle, en parlant de Jérusalem, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Donc, le feu de Dieu, c'est la gloire pour l'enfant de Dieu. OK? Vous comprenez ça? Donc, le feu de Dieu purge, admettons, les choses qui ne sont pas de Dieu, et puis on est purifié dans ce baptême de feu. Purifié, et puis on glorifie le Seigneur avec nos vies. C'est la gloire de Dieu. Donc, vous pouvez comprendre, le résultat de la gloire de Dieu ou du feu de Dieu, justement, c'est la gloire de Dieu. OK? Vous suivez? Ensuite, on voit dans Hébreux 12, verset 29, que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un feu dévorant. Ici, la conséquence, la conclusion est différente. Un feu dévorant. Là, on va comprendre pourquoi. En fait, Dieu est un feu. Dieu est un feu, et pour nous, l'enfant de Dieu, si on est venu au Seigneur, notre cœur, on lui a remis notre cœur, et Dieu a transformé notre cœur de pierre en cœur de chair. Mais c'est la même chose, si vous placez, par exemple, de la cire dans le feu, la cire va fondre. Mais vous mettez de l'argile dans le feu, et l'argile va devenir plus dure, elle va cuire. Et c'est ça qui se passe dans nos vies. Quand le feu de Dieu, la présence de Dieu vient sur une personne, quelqu'un qui est rebelle, qui résiste à ce que l'Esprit de Dieu dit, son cœur va devenir de plus en plus dur et va devenir un cœur de pierre. Et une autre personne, personne voisine dans la même église, qui a un cœur ouvert à l'Esprit de Dieu, son cœur va fondre et va s'abandonner entre les mains de Dieu et va dire, « Seigneur, fais ce que tu veux avec ma vie. Fais ce que tu veux avec ma vie, Seigneur. Tout ce que tu veux enlever de ma vie, je l'accepte. » Et là, on voit la différence entre quelqu'un qui a un cœur ouvert à l'Esprit de Dieu. Donc, quand on voit ici que l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon. En fait, c'est juste la présence de Dieu dans la vie de Pharaon. Devant Dieu, son cœur était déjà fermé et rebelle, et son cœur s'est empiré, est devenu de plus en plus rebelle. Donc, c'est pour ça que dans la parole de Dieu, ça nous dit, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » En fait, c'est un choix personnel. Si j'endurcis mon cœur ou si je m'abandonne entre les mains de Dieu, une personne de foi qui va avoir une belle vie, qui va glorifier le Seigneur avec sa vie, puis on va dire, la beauté de la foi, la beauté d'une vie transformée par Dieu, on va voir la personne totalement changée et rayonnante. Récemment, je parlais avec une sœur d'une autre assemblée, mais qui a commencé à découvrir des enseignements sur la foi, sur la confession, sur toutes des choses. Et puis, la sœur me disait à Mathilde et moi, ma vie a totalement changé. Maintenant, je suis dans la foi, je suis dans la joie, je suis bénie. Mais pourtant, elle était chrétienne avant. Mais là, elle venait de saisir quelque chose, puis elle s'est laissée enseigner par Dieu. Et son cœur a été transformé. Ça, c'est merveilleux. Puis là, on a vu la beauté. Mathilde et moi étaient là. Oh, c'est tellement beau de voir une personne transformée, où son cœur n'est pas dur, où son cœur est entre les mains du Père. Il peut être transformé. Amen. Je vais vous lire un texte dans Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Une personne de foi, c'est une personne qui va dire oui au Seigneur. Dans Ésaïe 1, 19 et 20, ça dit, « Si vous avez de la bonne volonté, on l'a relu plusieurs fois ces derniers temps, mais si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Devant cette vérité-là, moi, je choisis de donner ma volonté au Seigneur et dire, « Seigneur, je vais être docile. Je veux te laisser faire ce que tu veux avec ma vie. Je ne veux pas être le Seigneur de ma vie. Je veux que ce soit toi le Seigneur de ma vie. » Là, êtes-vous toujours avec moi? Vous ne dormez pas encore? C'est chose simple, quand même. Mais si on arrive à cette place d'abandon, vraiment, c'est au-delà des principes seulement. Ici, on parle d'une révolution personnelle. Ce n'est pas juste des principes de vie qu'on va adopter, puis ça, je vais essayer ça dans ma vie, puis si ça ne fonctionne pas, je mets ça de côté. Ce n'est pas du tout une question de principe. Ici, c'est une question vraiment de se confier totalement au Seigneur. Placer toute notre confiance en Dieu. Toute notre confiance. Puis quand on le sait, je ne manquerai rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que ma vie est totalement en lui. C'est lui qui me tient dans ses mains. Dieu me tient dans ses mains. Il n'y a personne, aucun démon d'enfer qui peut me sortir de sa main. Je suis protégé par le Seigneur. Amen. Le choix de la foi, maintenant, c'est là où on est arrivé. On arrive vers la fin. Venez pas tout de suite les musiciens, parce que la fin peut prendre trop longtemps. Mais là, on arrive à cette place. OK, je sais c'est quoi une personne de foi. Une personne de foi, c'est une personne totalement abandonnée qui fait vraiment confiance à son Dieu. Mais là, il y a un besoin d'un choix. Dans Jacques, chapitre 1, venez avec moi. Dans Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8. Si Dieu vous parle aujourd'hui, je suis certain qu'il va parler à quelqu'un. Dieu ne m'a pas donné ce message-là pour rien. Mais si Dieu vous parle aujourd'hui, c'est votre opportunité aujourd'hui même de faire ce choix-là pour que 2015 soit votre année la plus glorieuse de votre vie. Moi, je déclare qu'en 2015, je vais vivre la vie la plus bénie que j'ai jamais vécue. 2015. Amen. Ici dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, c'est dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Mais là, le verset 6, « Mais, voyez-vous, il y a un « mais ».« Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » La personne de foi, c'est une personne qui ne se déconnecte jamais de la vigne. C'est une personne toujours connectée avec Dieu. Et cette connexion avec Dieu fait en sorte qu'on demeure toujours sur le chemin de Dieu dans notre vie. Ça veut dire, si Dieu nous fait une promesse, je poursuis mon Seigneur dans cette promesse-là. Je poursuis le Seigneur constamment. Je suis à la poursuite de mon Dieu. Je ne suis pas à la poursuite de plein de choses, mais je cherche mon Dieu. Je cherche à plaire à mon Dieu en étant cette personne de foi et à être agréable à mon Dieu. Mais remarquez, ça dit, si on a besoin de quelque chose de Dieu, que ce soit la sagesse, peu importe la percée dans nos vies, ça dit qu'il la demande avec foi, sans douter. Pouvons-nous être une personne de foi et douter en même temps? C'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut être dans la foi, sans douter. Et là, on a l'explication, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité, poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il y a plusieurs chrétiens frustrés des fois parce qu'ils se disent, bien, je ne comprends pas, j'attendais pour telle percée, puis ça n'a pas fonctionné dans ma vie. La chose qui va fonctionner dans votre vie, c'est la constance avec Dieu. Je l'ai dit, ça fait des années, mais c'est le message qu'on a besoin d'entendre le plus souvent. La constance dans notre foi. La constance dans notre foi. Être constant. Mais ma femme, c'est une femme constante dans la foi. Je ne l'ai jamais entendu dire. Vous savez, en 99, on s'est mariés. Elle a été diagnostiquée avec une maladie. Mais quand elle a pris le rapport de Dieu pour sa guérison, même si elle a été attaquée à d'autres moments dans sa vie, je ne l'ai jamais entendu parler de mal ou même des fois là elle me disait mais là je vis quelque chose, prie pour moi. Je priais pour elle, mais je l'ai jamais entendu se plaindre. Je l'ai jamais entendu dire mais ça marche pas cette affaire là comme ça, je dois me tenir dans la foi. Jamais ma femme a été constante dans la foi. Croire Dieu peu importe, la Bible dit ça, c'est ce que je crois. C'est pour ça que les médecins disent mais je comprends rien. Pourquoi ça va si bien comme ça? Tu n'es pas sur un régime spécial, pas sur une diète spéciale, tu ne prends aucune médication, tu es supposé de vivre ci, puis ça, puis toi, c'est comme ça. Mathilde, je ne comprends pas. Je comprends, moi. C'est que ma femme a été constante dans les épreuves. Peu importe, elle n'a jamais abandonné. Elle n'a jamais remis en question la parole de Dieu, puis dit, ben, peut-être c'est pas ça que ça veut dire. Peut-être c'est pas vraiment vrai quand ça dit « il guérit toutes nos maladies ». Peut-être ça veut dire que des fois oui, puis des fois non, puis ça dépend si Dieu se réveille de bonne humeur. Tu sais, elle aurait pu dire ça, là. Quand on a mal, on peut remettre en question des choses, mais ma femme a toujours été constante. Puis je parle de ma femme parce que je l'aime, puis je trouve que c'est la femme la plus merveilleuse sur la terre. Vrai, vraiment. Moi, je suis vraiment béni d'avoir une femme merveilleuse comme j'ai. Vraiment, là, c'est vrai. Puis c'est vrai, hein, ma femme. Mais j'ai une bonne femme. Pas une bonne femme. J'ai une bonne femme. Puis je suis bien marié. Je suis vraiment bien marié. C'est Dieu qui nous a unis ensemble, vraiment. Parce que tout ce qu'on a passé à travers, ma femme a toujours été fidèle, toujours encourageante, toujours persévérante. Mais c'est parce que c'est une femme de foi. Ma femme, c'est une femme de foi. C'est pas une femme du tout conduite par les circonstances de la vie, parce qu'on aurait eu toutes sortes d'occasions de se décourager des fois dans la vie. On a tous des hauts et des bas. Ma femme a toujours été fidèle à la parole de Dieu puis l'appel de Dieu sur sa vie. Et en plus, elle fait toujours des choses qu'elle ne veut pas faire. Par exemple, elle ne voulait jamais chanter, ma femme. Elle ne voulait pas chanter. Puis là, elle conduit les chants. Elle ne voulait jamais faire de TV. Puis elle fait de la TV. Elle va en faire, là. J'étais au Miracle Channel, puis j'ai dit, chérie, j'ai besoin de toi pour faire de la TV. Elle venait être assise à côté de moi sur la chaise, elle me posait des questions. Pasteur, j'ai une question en anglais. Truth Matters, à l'époque. Elle détestait ça. Elle faisait quand même. Mais là, je pense qu'elle va aimer ça. Là, ça va être en français, ça va être plus fun. Elle va aimer ça. Mais Dieu a besoin des gens constants qui font pas, qui répondent pas à leur goût personnel, qui répondent au goût de Dieu. Puis après, quand on dit oui, Seigneur, bien là, après, Dieu nous donne le désir de notre cœur. Il change notre cœur pour que ce soit le sien. Vous comprenez? C'est que la pureté et la constance de la foi. Moi, ma femme m'inspire. Tu sais, elle m'inspire pour ça, pour la constance. Puis ça dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Puis si je lis ce texte-là, c'est pas pour vous chicaner puis vous sentir, oh, je me sens que je suis inconstant. Aujourd'hui, vous pouvez devenir constant, savez-vous? Vous pouvez choisir aujourd'hui puis dire, moi, je fais vraiment confiance à mon Dieu. Je fais vraiment confiance, ce qu'il dit, c'est vrai pour ma vie. Peu importe, j'ai parlé ici de guérison, mais peu importe l'affaire, pour la promesse sur votre vie, sur votre destinée. Peu importe, on est tous différents, on a tous des appels différents aujourd'hui. Mais si Dieu vous a parlé, vous a donné un rêve dans votre cœur, puis tout autour de vous, ça dit non, ça n'arrivera jamais, mais vous êtes avec votre Dieu, puis vous êtes fidèle envers votre Seigneur, vous marchez avec lui dans la fidélité, vous marchez fidèlement, vous êtes constant, vous êtes toujours dans la foi, vous êtes une personne que Dieu va honorer. Amen. Donc, aussi, une autre chose qu'on veut voir, la foi et la patience pour la promesse. Des fois, on commence bien, on est dans la foi, mais aussi, il faut être dans la persévérance. Dans Hébreux 6, versets 11 à 12, vous pouvez venir avec moi. Hébreux 6, versets 11 et 12. Écoutez bien ceci, puis je termine bientôt. Je vous donne juste une parole d'encouragement, là. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Si Dieu vous a fait une promesse pour votre vie, Dieu vous a fait une promesse pour votre vie, c'est par la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Trop souvent, on se décourage avant d'accoucher. Mais imaginez, rester enceinte toute votre vie, c'est plate, ça. Ça doit être inconfortable. Imaginez, femme enceinte toute sa vie. J'ai vu ça, femme de 90 ans, supposément, elle a eu comme son bébé est mort dans son ventre, puis elle avait comme une roche en dedans d'elle. 90 ans, quelque chose comme ça. Ça, c'est plate, ça. Hein? Vaut mieux accoucher les plans de Dieu. Amen. Mais comment y arriver? Par la foi et la persévérance. La fermeté de la foi aussi, dans Ésaïe 26, versets 3 à 4. 3 et 4. Ésaïe 26, 3 à 4, ça dit « À celui qui est ferme, dites ferme, dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. » Ça le dit deux fois. « Parce qu'il se confie en toi. » Voyez-vous la clé? Encore une fois, on revient à la confiance. « Parce qu'il se confie en toi. » Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel, est le rocher des siècles. Regardez là ce que j'aime, je le relis. À celui, dites celui.
Celui.
Êtes-vous ce celui-là?
Oui.
À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. Parce qu'il se confie en toi, il se confie dans la bonne personne. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, constamment, toujours, 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 sans arrêter. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Vous êtes peut-être comme l'apôtre Pierre, là, dans la Bible, où il était toujours comme... Il avait besoin qu'on prophétise sur lui. Hey, t'es un rocher, toi, là, Pierre. Mais ici, ça dit... Confiez-vous en l'Éternel. Puis je vais arrêter là parce qu'on est rendu assez loin. Mais aujourd'hui, je vais vous encourager. Une personne de foi, la beauté de la foi sur le visage de quelqu'un, là, c'est une personne qui s'est abandonnée entre les mains de Dieu, qui fait totalement confiance à son Dieu. Totalement confiance. Totalement confiance. Et c'est plus facile de prêcher que de le vivre. C'est plus facile de prêcher ça que de vivre vraiment. Mais l'abandon total entre les mains de Dieu, puis dire, Seigneur, je te donne ma vie. Vous savez, on peut dire, je te donne ma vie. L'équipe de la louange, je vous fais revenir, s'il vous plaît. On peut le dire une fois dans notre vie, vraiment, mais on a besoin de le dire constamment, en fait. On a besoin de le redire au Seigneur, je te donne ma vie. Pourquoi ça? Parce que des fois, on veut la reprendre. Nous, les êtres humains, on veut la reprendre. Mais là, je vais me charger de ça, moi, Dieu. Je vais me charger de ça. C'est un dossier, je sais que tu es bien occupé. Ton téléphone céleste sonne très, très, très souvent. Je sais que pour cette partie-là de ma vie, regarde, je sais que tu es très occupé, je vais m'en charger. Mais si vous vous chargez des choses que Dieu, lui, que Dieu seul peut faire, vous allez être obligé de continuer toute votre vie à vous charger de ces choses-là parce que Dieu n'était pas dans l'affaire. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Non. OK. Si je suis obligé de faire X, Y, Z, sans Dieu pour avoir mon résultat. Bien, pour maintenir mon résultat, je vais être obligé de faire X, Y, Z aussi. Toute ma vie, parce que ce n'était pas Dieu qui le faisait. Mais si je dis, Seigneur, X, Y, Z, je te donne tout ça, et là, je te laisse agir dans ma vie, là, les raisins vont pousser. Les raisins vont pousser et je vais devenir plein de raisins. Je vais être une branche fournie. Et là, cette branche-là va se multiplier et ça va devenir une vignoble. Puis là, les gens vont jamais dire, « Ah, regarde ce Joel Spinks-là, il y a donc bien une belle vignoble. » Non, non, non. Ils vont savoir l'auteur de la vignoble. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait pousser, qui donne le fruit. Parce que le Joel Spinks lui a dit que sans lui, je ne peux rien faire. Je suis juste une petite branche. Puis si je me déconnecte, je dessèche et je meurs. Dieu est la source, puis pas juste Dieu est la source, là. C'est pas juste ça qu'il faut dire. Oui, Dieu est la source, on le sait, ça. Mais sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux rien faire. J'ai besoin de m'abandonner entre ses mains. Aujourd'hui, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, puis vous pensez que ben, je peux m'organiser tout seul, ben, j'espère que vous êtes rendu au point où vous êtes assez fatigué. Parce que vous savez, aujourd'hui, j'ai su qu'il y avait une dame de décédée que vous ne connaissez pas, mais 45 ans. C'est jeune, ça, quand même, 45 ans. Mourir. Dieu ne nous a pas promis qu'on va se réveiller demain matin. On ne connaît pas notre avenir. Et l'éternité, c'est longtemps. Et la Bible nous dit, aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a des gens qui ont entendu à répétition, 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 et leur cœur est devenu tellement dur, c'est quasiment comme infranchissable. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous demander, si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, aujourd'hui, Dieu vous accueille et dit, « Viens dans ma famille, je veux t'avoir avec moi pendant l'éternité. » La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est marcher sur votre orgueil, élever votre main, et je vais prier une prière avec vous. Je ne vous gênerai pas plus que ça. Et je vais prier avec vous, en levant la main, vous dites, « Aujourd'hui, je réalise que j'ai besoin du Sauveur pour me pardonner. Je suis incapable de me pardonner moi-même, de me purifier. J'ai besoin que l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour moi à la croix, pour que je sois pardonné de mes péchés, que je puisse aller au ciel un jour. Aujourd'hui, je réalise que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. » Et pendant que toutes les têtes sont penchées, si on peut pencher les têtes maintenant, vous allez vous humilier juste devant Dieu et devant moi. Levez la main tout simplement et dites, vous ne dites pas « je vais embarquer dans quelque chose », c'est une question de donner sa vie, tout simplement. S'il y a quelqu'un, une ou des personnes ici, puis vous dites « je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui. » Dieu voit votre cœur, Dieu voit votre main. Merci. S'il y en a d'autres ce matin, merci, merci. S'il y en a d'autres ce matin, vous dites « je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui. » Super. Merci, madame. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On a 3 personnes ce matin qui veulent donner leur vie à Jésus. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Vous savez, on n'est pas obligé d'être au bout du rouleau pour dire oui à Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort sur la croix avec les bras grands ouverts comme ça. Puis c'est un signe d'amour aussi en même temps. Je veux vous recevoir. Je veux vous recevoir dans ma famille. Je veux vous pardonner. J'ai payé le prix pour que vous soyez pardonnés. Et aujourd'hui, le Seigneur va vous recevoir. J'aimerais demander à chaque personne dans cette place, j'aimerais ça vous demander, prie à voix haute, comme si c'était la première fois. Ben, j'aimerais ça demander à chaque personne ici, les personnes qui n'ont jamais prié cette prière, j'aimerais ça vous demander aujourd'hui, priez-le du fond de votre cœur, avec sincérité. Dieu va l'entendre et Dieu, le Saint-Esprit, va venir habiter en vous. Vous allez devenir une nouvelle créature aujourd'hui même, même avant de partir de cette place. Vous allez changer à tout jamais. Vous allez lire la Bible, tout d'un coup, vous allez comprendre. Dieu va changer votre vie. Et ça vient du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous demander, chaque personne, vous avez levé la main, priez après moi, mais aussi les frères et les sœurs dans cette assemblée, priez à haute voix. Et pour nos amis sur Internet, à la radio, je vais vous inviter ce matin, priez également. Le décret de votre bouche, Dieu va l'entendre et va vous recevoir. Répétez après moi, Père éternel, je réalise aujourd'hui mon besoin de toi. Je te donne mon cœur. Lave-moi. Purifie-moi. Je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, j'aimerais vous rencontrer à la toute fin. Je vais me tenir à la porte de sortie. Venez me donner la main et puis on va vous remettre un Nouveau Testament et vous présenter la famille de Dieu. Si vous avez fait cette prière, contactez-nous aujourd'hui en écrivant info@evqmedia.com. info@evqmedia.com et puis on va vous écrire, vous diriger vers une bonne église dans votre nation. Peu importe où vous vous retrouvez, il y a des frères et des sœurs qui sont là, qui vous attendent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aujourd'hui? Amen. On va se lever maintenant. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci pour cette saison dans ta sainteté. Oh, merci Seigneur Dieu. Savez-vous ce que je voyais? J'essaie de comprendre. C'est comme si je vois... C'est comme un rouleau de tissu blanc dans le milieu de l'assemblée qui a fait chou comme ça. Je comprenais pas au début. Mais vous savez, l'épouse se prépare. Alléluia, nous sommes l'épouse. On n'est pas la seule. On n'est pas la seule. On ne prétend rien. On ne prétend rien. On ne peut rien faire sans lui. Mais je sais qu'on est en train de vivre quelque chose. Et l'épouse se prépare. Et le voile de l'épouse est dans cette place. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la sainteté. Merci pour la sainteté. Merci pour la sainteté à cause de ton sang. À cause de ton sang, Seigneur Jésus. Seigneur, on te remercie. On te remercie, Seigneur. Si on peut s'approcher de toi, si on peut marcher. Si on peut marcher, Seigneur Dieu, dans la sainteté, c'est grâce à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, on te remercie, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais en ce moment. On te remercie, Seigneur Dieu. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur Dieu. On ne prend pas pour acquis ce que tu fais, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus. On ne prend pas pour acquis ce que tu fais, Seigneur. Je te loue, Seigneur Dieu, parce que tu es bon. Tu es bon et tu es saint. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te louons, Seigneur Dieu. Nous te louons, Seigneur Jésus. On ne peut rien faire sans toi, Seigneur Dieu. On ne peut rien faire sans toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Pasteur Michael, pourrais-tu me remplacer à la porte de sortie pour rencontrer les gens, s'il vous plaît? Alléluia, merci, Seigneur Jésus, gloire à toi. Amen, nous déclarons sur vos têtes aujourd'hui le shalom de Dieu. Rien de manquant ni de brisé. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Passez une belle journée dans la présence de Dieu. Amen. Pasteur Michael va être là pour vous rencontrer les gens, les personnes qui se sont données à Jésus aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.